Bonjour, nous sommes les Dignes Ding Dong et nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission directe sur le thème de la découverte des empreintes digitales et sur ce que cela a changé dans différents domaines. Cette émission comprend deux parties. Une première sur la découverte des empreintes digitales des humains et une seconde sur celle des animaux.
L'humanité connaît depuis très longtemps l'importance des empreintes digitales. Dans l'ancienne Babylone, environ 2000 ans avant Jésus-Christ, les gens laissaient des empreintes sur des tablettes d'argile comme signature. En Chine, l'empereur Qin Shi, -246-210 avant Jésus-Christ, authentifiait certaines scellés et avec une trace digitale et des documents par la position d'une main ancrée. Les formes particulières de l'empreinte digitale étaient ainsi connues depuis longtemps et ont été retrouvées notamment dans des gravures situées à proximité du lac Kenchikul, en Nouvelle-Écosse. Mais la date reste encore indéterminée. Source www.littlemedicalschool.com. En 1684, un médecin anglais publia la première analyse scientifique sur les crêtes qui apparaissent sur la paume et les doigts. En 1788, l'analyste allemande Johann Meyer déclarait qu'il n'y a pas deux personnes ayant le même schéma.
Mais en fait, qu'est-ce qu'une empreinte digitale ? Source Wikipédia.
Une empreinte digitale est le dessin formé par un doigt sur un support suffisamment lisse pour qu'il reste marqué dermatoglyphe. Les dermatoglyphes sont en fait des plis formés de crêtes et de sillons à la surface de la peau et particulièrement des doigts, qui forment des volutes et des tourbillons spécifiques à chaque doigt et à chaque individu. Ces crêtes sont également présentées sur les orteils, la paume des mains et la plante des pieds. Il existe quatre types d'empreintes digitales. En effet, il est possible d'identifier une personne par ses empreintes digitales. Ces quatre types d'empreintes sont appelés boucles, courbes ou arcs, tourbillons et composés. Ces volutes et ces sillons commencent à se développer au cours du troisième mois de développement fœtal et sont complètement formés au sixième mois. Si l'expression des gènes joue un rôle, les circonvolutions des crêtes qui leur donnent leur dessin caractéristique dépendent de nombreux facteurs externes comme la vitesse de croissance des doigts, l'alimentation du fœtus, sa pression sanguine, etc.
Ainsi, les empreintes digitales de deux vrais jumeaux révéleront une grande similarité, mais seront différentes. À 24 semaines, la géométrie des empreintes est fixée pour toute la vie de l'individu et les seules déformations qui se produiront ensuite viendront de la croissance des doigts. Les procédés d'identification des individus par leurs empreintes digitales, sans l'aide d'ordinateur, sont désignés sous le nom de dactylotechnie. L'étude des dessins digitaux s'appelle la dactyloscopie, du grec dactylos, ou doigt, et de scopie qui signifie examen. Le caractère quasi unique d'une empreinte digitale en fait un outil biométrique très utilisé en médecine générale et par la police scientifique pour l'identification des individus. Par défaut, l'empreinte de l'index gauche est utilisée pour établir une carte d'identité française. Cependant, les empreintes digitales peuvent s'altérer chez l'humain suite à des lésions comme du psoriasis, de l'eczéma, le syndrome de Raynaud, la sclérodermie systémique et aussi suite à des brûlures chimiques ou thermiques.
Un peu d'histoire.
On relève les empreintes digitales depuis 120 ans grâce à Monsieur Bertillon Alphonse.
Mais qui était Bertillon Alphonse ?
C'est le créateur de l'anthropométrie. Le fondateur en 1882 du premier laboratoire de police d'identification criminelle et créateur de l'anthropométrie judiciaire appelé système Bertillon ou Bertillonnage. Un système d'identification rapidement adopté dans toute l'Europe puis aux États-Unis et utilisé en France jusqu'en 1970. Alphonse Bertillon, 1853-1914, est unanimement reconnu comme le père de la criminologie. Source, Cathy Lafont, autoportrait d'Alphonse Bertillon, publié le 14 octobre 2023.
Avant d'aller plus loin, écoutons maintenant la musique du générique de la série « Les Brigades du Tigre », musique composée par Claude Bolling, la chanson « La Compète des Apaches » est interprétée par Philippe Clé.
Incognito, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux, ni grands ni gros. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux en torpedo, de vrais casse-cou à 35 au chrono. Monsieur Clémenceau, c'est plus réglo, c'est la mort du boulot. Pendant ce temps-là, dans vos salons, pour voir des horreurs qui ne vaudront sûrement pas un radis, c'est moi qui vous le dis, Monsieur Picasso. Il y a des dames au diamsco comme des pruneaux. Fou du boulot, 24 heures sur 24 frais et dispo. De vrais robots, toujours à l'affût, jamais au repos. De face, de dos, profil, ils ont nos bobines en photo. Monsieur Clémenceau, pensez à nos femmes et à nos marmots. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans.
Alors l'anthropométrie, qu'est-ce que c'est ?
L'anthropométrie est la science qui traite des mesures du corps humain, la taille, le poids, mais aussi des proportions du squelette. C'est une technique de mensuration du corps et de ses différentes parties. L'anthropométrie est utilisée en ergonomie et dans l'art, comme la peinture, la sculpture, le dessin, mais surtout dans le domaine judiciaire. L'anthropométrie judiciaire est une méthode d'identification des criminels par leur mensuration. Alphonse Bertillon invente très vite une méthode pour identifier les récidivistes à partir des études faites par un mathématicien, naturaliste et statisticien belge, Adolphe Quatelet, sur des mesures osseuses qui montrent que 14 mesures d'os sont propres et uniques à chaque individu. L'idée est simple. À leur première arrestation, on va mesurer sur les criminels tout ce qui est mesurable sur une personne, notamment les os. On va relever des éléments déterminants du visage, puis photographier le sujet de profil et de face. Au total, dès 1882, Bertillon relève ainsi 14 mensurations avec un pied à coulisses, la taille, la longueur des pieds, des mains, des oreilles, des avant-bras, l'arête du nez, l'écartement des yeux, etc. L'ensemble est noté sur une petite fiche que l'on va appeler fiche anthropométrique, ou autrement dit une fiche qui mesure les humains. L'anthropométrie judiciaire est née, et avec elle, le premier laboratoire de police d'identification criminelle.
Et les empreintes digitales, alors ?
La police doit beaucoup à celui qui est considéré comme le pionnier de la police scientifique. Mais, contrairement à ce que l'on croit, si les policiers et l'administration ont la manie de prendre vos empreintes digitales à tout bout de champ, ce n'est pas seulement à cause de Bertillon. Ce n'est pas le policier français qui met au point la méthode d'identification des individus au moyen de leurs empreintes digitales, identifiées elles-mêmes dès le XVIIe siècle par l'anatomiste italien Marcello Malpighi, mais un de ses contemporains, un Anglais, Francis Calton, qui va classifier au moins 2500 empreintes. S'il ne croit pas vraiment à l'efficacité de la dactyloscopie, le policier français joint alors à ses fiches signalétiques l'empreinte des quatre doigts de la main gauche, droite, et de l'index gauche à partir de 1900, puis en 1904, celle des dix doigts. En 1877, aux Indes, le Britannique William James Herschel utilise les empreintes digitales pour éviter que les bénéficiaires de pensions de l'armée ne la touchent plusieurs fois. Le 17 octobre 1902, Bertillon expérimente pour la première fois en France le procédé des empreintes pour résoudre le meurtre de Joseph Rebel, le domestique d'un dentiste parisien, Auguste Allot, au 157 rue du Faubourg Saint-Honoré. Bertillon arrive avec la police sur les lieux du meurtre, muni de son appareil photographique. Comme dans une scène de n'importe quelle série policière, il immortalise la scène du crime. Le procureur lui fait remarquer des empreintes de doigts sur une vitrine brisée. Bertillon emporte ce fragment de verre au service anthropométrique. Il fait ressortir ses empreintes sur le verre, puis les compare avec celles que l'on relève désormais sur les détenus. Mingo, elles correspondent exactement à celles qui figurent sur la fiche d'un nommé Henri Léon Schaeffer, dit l'artilleur. Bertillon consigne sa découverte dans un rapport daté du 24 octobre 1902. Schaeffer se rend à la police et passe aux aveux. Pour Bertillon, c'est la gloire. En quelques années, le bertillonnage triomphe dans le monde entier. La véritable première mondiale dans le domaine des empreintes digitales aurait toutefois eu lieu dès 1892 et serait due au fonctionnaire de police argentin Juan Vucetic. Reste que, plus d'un siècle après, la dactyloscopie est toujours la technique primordiale pour la police scientifique. Le système Bertillon, avec ses mensurations, son emploi de la photographie anthropométrique, dite aussi face-profil, mais également le signalement descriptif ou la description des stigmates physiques, cicatrices, tatouages, graines de beauté, tout cela connaît son heure de gloire avec le bertillonnage.
Qu'en est-il aujourd'hui ?
À ce jour, toutes les empreintes digitales sont répertoriées dans un fichier automatisé qui s'appelle le FED. Le FAED, ou fichier automatisé des empreintes digitales. Le FAED répertorie les empreintes digitales sur les doigts et également palmaires, c'est-à-dire la paume des mains des personnes disparues et ou recherchées. Il facilite notamment l'identification des auteurs de crimes ou de délits. Seuls les fonctionnaires et militaires habilités peuvent accéder à ce fichier. Si des informations vous concernant sont enregistrées au FAED, vous pouvez demander leur communication pour rectification et ou leur effacement. Vous devez adresser une demande au procureur de la République, magistrat à la tête du parquet ou du ministère public. Il est destinataire des plaintes et signalements. Source Underwear Criminal Investigation UCDiver.com. Dans ce fichier, les informations sont conservées. 15 ans. Pour les personnes mises en cause pour un crime ou un délit, en sachant que dans certains cas, pour un crime, la durée peut aller jusqu'à 40 ans. Pour les mineurs, les informations sont gardées pendant 10 ans pour un délit et jusqu'à 25 ans pour un crime. Les empreintes peuvent aussi être conservées dans ce fichier pendant 25 ans pour les personnes mises en cause par rapport à un décès ou une disparition. Et aussi pendant 25 ans pour les cadavres non identifiés et les personnes grièvement blessées.
Musique, le professionnel Ennio Morricone, Shine, interprété par l'Univers Orchestra Concert. Mais comment procède-t-on pour prendre les empreintes digitales de quelqu'un ?
Traditionnellement, les empreintes digitales exemplaires sont capturées et enregistrées en faisant rouler le doigt du sujet sur un tampon encreur, puis en le pressant contre une feuille de papier. Pour relever les empreintes digitales, les forces de police doivent utiliser un matériel spécialement adapté à la police technique et scientifique, appelé la PTS. Afin de ne pas compromettre la scène de crime ou le site d'un cambriolage, les autorités sont amenées à utiliser des gants et des objets répondant à des normes bien précises, comme du matériel de détection et de récupération de traces de sang, de résidus de tir et ou d'explosifs, mais aussi bien sûr des empreintes digitales. La spécialité qui s'occupe de chercher et révéler des traces s'appelle l'identité judiciaire. Parmi le matériel utilisé, on trouve des poudres noires, grises ou rouges qui, une fois appliquées sur le support où se trouve la trace, se lient au dépôt humide, quand on touche l'objet sur lequel la trace se situe, ce qui permet la capture de l'empreinte de la trace.
Mais comment compare-t-on les empreintes digitales ?
Selon la loi française, il faut au minimum 12 points de convergence pour déterminer que deux empreintes sont identiques. Ces points, appelés aussi minutie, sont des points d'irrégularité se trouvant sur les lignes capillaires, comme les terminaisons, les bifurcations, etc. Ces points d'irrégularité sont très spécifiques d'une personne à l'autre.
Abordons à présent les applications dans différents domaines depuis la découverte des empreintes digitales.
Dans la sécurité, les empreintes digitales sont utilisées pour déverrouiller nos téléphones portables, nos tablettes, pour ouvrir des portes, des coffres, tout ce que l'on souhaite protéger et garder secret. La reconnaissance des empreintes digitales est également utilisée dans l'authentification biométrique, qui est une technique qui utilise des capteurs d'empreintes pour procéder à l'identification d'une personne. En fait, la biométrie regroupe l'ensemble des techniques informatiques permettant de reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques, voire comportementales. Ce sont des données personnelles. Comme par exemple, dans tout ce qui concerne l'identité civile de chaque citoyen, comme sur les passeports, durant les contrôles aux frontières, etc. La biométrie est également utilisée dans la cybersécurité ou sécurité numérique pour authentifier l'utilisateur d'un service ou bien sécuriser des transactions comme un achat en ligne, etc.
Elle est également utilisée dans la sécurité publique pour, par exemple, contrôler et sécuriser des accès aux lieux publics. La protection par empreinte digitale est l'une des solutions de sécurisation les plus en vogue actuellement dans le milieu professionnel. De plus en plus d'entreprises s'en servent pour sécuriser leurs données sensibles ou pour restreindre l'accès à des zones interdites au sein de leurs locaux. Mais peut-on affirmer sans équivoque que le déverrouillage par empreinte digitale est un moyen de protection efficace et sécurisé ? Voici des éléments de réponse.
Reconnaissance par empreinte digitale. Définition et réglementation de la CNIL, Commission nationale de l'information et des libertés.
La reconnaissance par empreinte digitale sert à identifier une personne afin de lui donner l'accès à un système verrouillé. Elle est très utilisée dans l'entreprise à cause de la taille réduite des lecteurs d'empreintes qui s'intègrent aisément aux divers dispositifs installés. Ces capteurs possèdent la capacité d'enregistrer les crêtes et les sillons de l'épiderme et de les déchiffrer. Bien qu'il ne soit pas interdit de l'utiliser dans l'entreprise, l'implémentation d'un dispositif qui utilise la reconnaissance par empreinte digitale est réglementée. Toute société désireuse de mettre en place cette solution de sécurisation de ses locaux et de ses documents doit saisir la CNIL. Voici les points à respecter lorsque vous souhaitez installer des terminaux qui fonctionnent par la reconnaissance digitale au sein de votre structure. L'identification doit être sécurisée et très fiable. Les différents acteurs qui l'utiliseront doivent être au préalable informés de son installation et doivent vous donner leur accord. La protection des risques d'atteinte aux libertés personnelles doit être proportionnelle au profil de chaque utilisateur. L'utilisation du système de déverrouillage par empreinte digitale doit être limitée à une zone précise. Un nombre limité de personnes doit être déterminé.
L'empreinte digitale est-elle vraiment fiable ?
Même si c'est un outil d'identification très sophistiqué, il faut reconnaître que les empreintes digitales ne sont malheureusement pas infalsifiables. Il existe plusieurs méthodes de contournement qui permettent de déverrouiller un système sécurisé avec un lecteur d'empreintes digitales. Par exemple, il est possible de récupérer en version numérique les données biométriques d'une personne stockées par un scanner d'empreintes digitales. Elles peuvent ensuite être transformées et imprimées en 3D à l'aide de matériaux élastiques. Il en est de même pour une empreinte laissée sur une surface en verre. À l'aide d'une matière transparente, elle peut être recueillie pour servir à la création d'un faux doigt. Il est vrai que ces différentes techniques de contournement ne sont pas à la portée de tout le monde. En revanche, le risque, lui, demeure bien réel. En plus des problèmes de falsification, cette technologie de contrôle d'accès peut présenter des problèmes de fonctionnement. Au contact de l'eau ou des produits cosmétiques, un scanner d'empreintes ne répond généralement pas. Une petite blessure sur le doigt peut aussi empêcher une personne légitime d'avoir accès à son espace de travail.
L'empreinte digitale est-elle plus fiable que le mot de passe ?
C'est principalement pour renforcer la sécurité de leurs données que les entreprises optent pour la solution biométrique qui utilise les empreintes digitales. Mais est-ce que c'est réellement plus fiable que les traditionnels mots de passe ? Il n'existe pas de réponse tranchée à cette question. En effet, l'avantage majeur d'un système de déverrouillage par empreinte digitale est qu'il permet d'utiliser un élément indissociable d'une personne pour l'identifier. Si cet élément n'existe pas, il est impossible d'accéder à la ressource verrouillée. En principe, c'est donc une solution beaucoup plus avantageuse que le mot de passe. Cependant, dans la pratique, les mots de passe, lorsqu'ils sont bien utilisés, sont plus fiables. Les algorithmes peuvent parfois se tromper. De plus, il n'est pas possible de modifier les empreintes digitales pour renforcer la sécurité d'accès aux données, comme on peut le faire pour un mot de passe.
Et dans la médecine, qu'en est-il ? Source, la biométrie de l'identification des patients, www.hid-global.com.
La biométrie offre une preuve irréfutable pour s'assurer d'administrer le bon traitement à la bonne personne en toute situation, améliorant de ce fait la qualité et la sécurité des soins. Elle est utilisée dans certains cabinets médicaux, les hôpitaux et d'autres établissements de santé. En utilisant des marqueurs biométriques uniques pour identifier le patient ou la patiente, les prestataires de santé peuvent associer en toute confiance un visage ou des empreintes digitales à un dossier médical pour assurer la fiabilité de ce dernier et ainsi lutter contre les pratiques de soins illégales à la fraude à l'assurance. Comme la biométrie s'apparente à une science de la collecte et de l'analyse de données biologiques ou de santé à l'aide de méthodes statistiques, elles peuvent être utilisées pour aider à découvrir les causes possibles d'un cancer ou bien la fréquence à laquelle un cancer survient dans un certain groupe de personnes. Cette pratique est également appelée biostatistique. Enfin, l'authentification biométrique est un moyen efficace de sécuriser les appareils et les données numériques. Elle offre un niveau de sécurité et de commodité supérieur aux méthodes d'authentification traditionnelles. Cependant, elle présente également des inconvénients, tels que des problèmes de confidentialité, des faux positifs et des coûts élevés. Quant au consentement des personnes, il faut se référer à la législation et ce thème pourrait faire l'objet d'une émission à lui tout seul. Cependant, il existe une loi proposée par le Sénat qui a été votée le 12 juin 2023 qui envisage une législation spécifique pour la reconnaissance biométrique. Cette loi vise à réguler l'usage de la reconnaissance biométrique, en particulier faciale, dans l'espace public, afin de faire obstacle à une société de surveillance. Source www.securitas.fr.
Mais peut-on refuser de donner nos empreintes digitales ?
Non. Le refus de se soumettre au prélèvement d'empreintes digitales dans le cadre d'une enquête judiciaire ou de police est une infraction pénale.
Écoutons maintenant la chanson « Gentleman Cambrioleur », indicatif du feuilleton télévisé Arsène Lupin, interprété par Jacques Dutronc.
C'est le plus grand des voleurs, oui mais c'est un gentleman, il s'empare de vos valeurs, sans vous menacer d'une âme, quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Sommeil, il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Chaque femme a son heure, rêve de voir son visage, de l'actrice à la danseuse, à l'épouse la meilleure, gentleman
aussi arrivé à la seconde partie de l'émission qui concerne les animaux, surtout ceux qui peuvent présenter ou non des empreintes digitales. Source newscience.test.com.
Tous les animaux n'ont pas d'empreintes digitales. En ce qui concerne ceux qui en sont pourvus, il est facile de penser à des parents humains proches comme les chimpanzés et les gorilles, et il n'est pas surprenant que ces animaux aient des empreintes digitales. Cependant, il est un animal qui a des empreintes digitales presque identiques aux empreintes digitales humaines, et cet animal, c'est le koala. Ce petit mammifère qui grimpe aux arbres avec son bébé sur le dos dans les jungles australiennes est doté d'empreintes digitales aux motifs uniques. Pour les humains, comme pour les animaux, les empreintes digitales aident à l'adhérence, elles nous permettent de mieux tenir sur des surfaces rugueuses, et elles nous permettent également de mieux sentir et ressentir les textures et les formes des choses que nous tenons. Pour les koalas, c'est la même chose. Leurs empreintes digitales les aident à saisir les branches et les troncs d'arbres, et comme ils s'alimentent principalement de feuilles d'eucalyptus, cela les aide aussi à identifier la texture de leur repas. Il y a beaucoup d'autres animaux qui n'ont peut-être pas d'empreintes digitales, mais qui possèdent leurs propres caractéristiques uniques à afficher. Par exemple, les chats et les chiens ont des motifs de moustache uniques, les zèbres ont des arrangements de rayures distincts, et les léopards et les dauphins tachetés ont leurs propres motifs de taches. Les baleines à bosse ont également des marques uniques sur le dessous de leur queue.
Oui, mais les chimpanzés ont-ils des empreintes digitales ? Source, guichetdusavoir.org.
Le consensus général est que les chimpanzés, de même que d'autres espèces de grands singes, possèdent des motifs d'orteils et de doigts dont la forme est similaire aux empreintes digitales des humains. Les primates portent au bout des doigts des bourrelets dont le rôle est peut-être d'absorber les chocs. La peau de leurs mains, comme celle de l'homme, est parcourue de minuscules crêtes qui forment des figures compliquées, connues sous le nom de dermatoglyphes. Dermo, peau, glyphe, sculpture. Ces crêtes épidermiques, appelées empreintes digitales, sont utilisées pour l'identité judiciaire. On a calculé qu'il faudrait en examiner 17 milliards pour en trouver deux superposables. Elles constituent un perfectionnement tactile, car elles sont très richement innervées et assurent une meilleure adhésion à la surface touchée, comme les dessins des pneus permettent une meilleure adhérence à la route. Source, livre, l'ouvrage des sens de Guy Lazorte, qui était un professeur de neurochirurgie et universitaire français, décédé à l'âge de 103 ans le 25 mars 2014.
Mais quel est l'intérêt des dermatoglyphes ?
L'intérêt des dermatoglyphes est d'améliorer l'appréhension, ce qui explique pour quelle raison on les retrouve chez les humains. Si celles des singes sont uniques pour chaque individu, à l'instar des nôtres, elles ne sont pas complètement identiques. Les dermatoglyphes de la main des singes diffèrent de ceux de l'homme, constitués de crêtes épidermiques séparées par de profonds sillons. Ils recouvrent toute la surface palmaire de la main. Dans les espèces inférieures, les dermatoglyphes sont nets et réguliers. Chez les lémuriens, les pulpes présentent des crêtes cutanées longitudinales et parallèles entre elles. Chez le babouin, les figures ellipsoïdales simples prédominent, tandis que chez le gibbon et les autres anthropoïdes, on relève des courbes semblables mais non identiques à celles de la main humaine.
Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Nous remercions les auditeurs et aussi Fréquence Mistral de nous avoir accueillis. Merci à Odile Frison de nous permettre cet échange et nous donnons rendez-vous pour une prochaine émission dans 3 mois.
Mais avant de nous quitter, Sylvain va nous conter un petit poème.
Né le 3 avril 1971, je laisse mon empreinte dans le temps qui passe, j'oublie d'effacer les traces qui est coupable. Emprunter, emporter.
Musique de fin, la chanson des chiens, Monsieur Sébi.
Ok, Monsieur Sébi, pour tous les chats du monde.
Ce sont les plus fidèles, avec pas de problème, toujours prêts à s'amuser. Les chats sont familiers, c'est fou ce qu'on les aime un peu comme des merveilles, on ne peut pas les oublier. C'est le moment de chanter, ce sont les plus fidèles, avec pas de problème, toujours prêts à s'amuser. Les chats sont familiers, c'est fou ce qu'on les aime un peu. Sont familiers, c'est fou ce qu'on les aime un peu comme des merveilles, on ne peut pas les
t'oublier, c'est le moment de chanter. Ce sont les plus fidèles, avec eux pas de problème, toujours prêts à s'amuser. Les chiens sont familiers, c'est pour ce qu'on les aime un peu comme des merveilles, on ne peut pas les oublier, c'est le moment de chanter.
Il est content au moment de sortir, il court partout, il kiffe trop sa vie. Ça, ça donne le sourire. Les chiens sont vraiment nos meilleurs amis.
Et ça fait waf waf, et ça fait waf waf, et ça fait waf waf, il est fou de joie. Et ça fait waf waf, et ça fait waf waf, et ça fait waf waf, il est fou de joie. Ce sont les plus fidèles, avec eux pas de problème, toujours prêts à s'amuser. Les chiens sont familiers, c'est fou ce qu'on les aime un peu comme des merveilles, on ne peut pas les oublier, c'est le moment de chanter. Ce sont les plus fidèles, avec eux pas de problème, toujours prêts à s'amuser. Les chiens sont familiers, c'est fou ce qu'on les aime un peu.
Si ton chien, alors mets un pouce en l'air sur cette chanson et partage-la auprès de tout le monde qui ont des chiens. Cette chanson est pour eux.
Ce sont les plus fidèles, avec eux pas de problème, toujours prêts à s'amuser. Les chiens sont familiers, c'est fou ce qu'on les aime un peu comme des merveilles, on ne peut pas les oublier, c'est le moment de chanter. Ce sont les plus fidèles, avec